Bien, bonjour à toutes et à tous et merci Seigneur de nous avoir permis de nous rassembler encore cet après-midi pour partager sa parole, pour nous retrouver hein, aussi, pour partager sa parole, pour échanger, voilà, pour le louer, pour l'adorer par nos chants, par nos louanges et puis par nos prières aussi. Donc crucifié et ressuscité, nous nous sommes penchés sur la phase pré-crucifixion. La phase crucifixion, et maintenant nous abordons et nous avons ouvert la porte de la résurrection. Et là, effectivement, souvenez-vous, la semaine dernière, juste avant, nous avons lu ce passage, hein, les pharisiens qui retournent voir Pilate, hein, on s'est arrêté quasiment là-dessus, en disant, bon, on voudrait être sûr et certain que Jésus n'ait aucune possibilité de se sauver, donc il faut impérativement il y a une grosse pierre déjà qui est roulée, mais il faut absolument que des soldats soient là, montent la garde. On ne sait jamais, des fois que des gens viendraient, rouleraient la pierre, emmèneraient le corps de Jésus en disant vous voyez, il est ressuscité, le corps n'est plus là. Et malgré ça, qu'est-ce que l'on voit? Malgré ça, qu'est-ce que l'on voit? Malgré toutes ces précautions humaines, rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser, parce que comme l'a écrit le prophète, comme l'a dit Jésus à ses disciples, je ressusciterai le troisième jour. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort, il a pris nos péchés. Christ ressuscité, c'est la base de notre foi. C'est la base de notre foi. Et dans 1 Corinthiens, donc Paul ou 1 Corinthiens, au chapitre 15, il écrit ceci. Bon, parfois, il faut le relire plusieurs fois pour bien assimiler le sens. Mais quand même, il dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Parce que s'il n'y a point de résurrection des morts, donc Christ n'est pas ressuscité. Mais Christ est ressuscité. Donc, il y aura résurrection des morts. Donc là, l'histoire aujourd'hui, nous allons la terminer, on va dire, hein, sur la résurrection, sur ce qui va se passer juste après la résurrection, et de voir un peu les conséquences de cette résurrection. On en terminera l'histoire pour aujourd'hui, enfin en ce lieu, mais l'histoire n'est pas terminée, parce que certes, dans cette phrase, il y a Christ ressuscité et la résurrection des morts, on est dans la période Christ ressuscité, et il faut que, je vais quand même vous dévoiler un petit peu la fin, mais vous la connaissez, Christ revienne et il y aura résurrection. Et nous partirons avec lui. Enfin, je le souhaite à tout le monde. Dieu a ouvert les bras sur nous tous. Hein, même c'est une symbolique cette croix. Hein, parce que quand on veut accueillir quelqu'un, qu'est-ce que l'on fait? On serre les bras devant soi le long du corps ou on fait bonjour? Instinctivement, on met les bras en croix pour accueillir la personne, pour la prendre dans ses bras, pour la saluer, pour qu'elle puisse s'approcher de notre cœur. C'est ce que Christ a fait. Et même si notre corps est complexe, et en dépit de cette complexité, Dieu nous connaît dans le moindre recoin, dans les moindres détails, et cette complexité-là n'arrête pas notre Dieu. Parce que certains disent, oui, mais c'est bien beau, mais Christ, il est ressuscité, mais c'est pas pour moi. Je mérite pas. Mais qui est-ce qui peut dire qu'il mérite? Personne. Car tous ont péché. Et sont condamnés à mort. Et Christ est mort pour tous. Il nous a sauvés pour ce que nous sommes et pour ce que nous étions. Sa résurrection nous ouvre les portes de la réalité de l'existence de la vie, de la simplicité de notre démarche pour l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur. Il est ressuscité pour chacun de nous. Dans Marc chapitre 16, donc lorsque le sabbat fut passé, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus, hein, juste avant ce verset. Le premier jour, elles se rendirent au sépulcre de bon matin, et elles-mêmes, elles se disaient, mais qu'est-ce qui nous roulera la pierre pour aller voir le corps? Et la pierre avait été roulée. Et là, ne vous épouvantez pas, hein, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est une stupeur, une stupéfaction pour elles. Parce que, bon, peut-être et sûrement, elles avaient entendu Jésus le dire, mais entre eux, entendre quelque chose et croire que ça va se réaliser, parfois on laisse le doute s'installer. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait demi-tour, elles ont couru et elles sont allées dire aux autres qui étaient restés dans la ville, mais le corps n'est plus là, il est ressuscité. Et ils ont même eu du mal à croire. Et celui qui a aussi eu du mal à le croire, et c'était un proche de Jésus, hein, on dit toujours, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Eh bien Thomas, oui, ben c'est lui. Il se retrouve face à face avec Jésus. Et Jésus lui dit, Thomas, approche. Il lui a pas dit Thomas, approche. Il a ouvert les bras. Thomas, approche et regarde. Regarde et mets ton doigt. Thomas avait besoin de toucher. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui ne se touche pas. Mais Thomas, il avait besoin, pour mettre sa foi en action, d'un contact physique. Certains avaient dit à Jésus, « Montre-nous un miracle afin que nous croyions. » Jésus a dit, leur a répondu, « Heureux celui qui croit sans voir. » Moi, je n'ai pas vu Jésus. Même si je suis plus âgé que vous, je n'ai pas vu Jésus. Mais je crois. Je crois en sa mort, je crois à sa résurrection, je crois à son élévation auprès du Père. Et quand Thomas il a touché, il a dû dire, mince, c'est vrai. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pour manifester la réalité physique de la mort, Christ a été enseveli, mis au tombeau, sous la surveillance des soldats, mais il est ressuscité. Il s'est abandonné à lui-même. C'est aussi cette symbolique qu'on utilise dans le baptême, quand on passe par les eaux du baptême, on est plongé dans l'eau et on se relève. On renonce à soi-même et on se relève avec Christ. C'est pas une eau miraculeuse, hein. Attention. C'est un symbole de dire, je reconnais que j'accepte et je repars avec Christ. Et ce n'est pas le baptême qui sauve. Peut-être qu'un jour, on redéveloppera cette symbolique du baptême. Que s'est-il passé une fois le tombeau ouvert et découvert vide? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, par exemple, il y a deux disciples qui s'éloignent de Jérusalem. Alors, pourquoi ils s'éloignent de Jérusalem? Ben là, pour eux, l'histoire, elle était peut-être finie. Peut-être qu'ils se sont dit, ben, on l'a vu prêcher, enseigner, on l'a vu se faire arrêter, on l'a vu se faire condamné, injustement, hein, assurément, absolument, mais il a été condamné. On l'a vu être battu, on l'a vu être crucifié, on l'a vu mourir sur cette croix, et on l'a vu aller dans le tombeau. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On n'a plus de raison de rester là. À quoi faire? Tourner en rond, à notre guide, notre maître, notre guide spirituel est parti. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Alors le mieux, c'est qu'on s'en aille, qu'on retourne peut-être dans notre village et qu'on se remémore se remémorer le passé. Et là, donc, ils s'en vont sur ce chemin. Et puis, ils ne s'aperçoivent pas que quelqu'un les rejoint. Jésus s'approcha d'eux. Et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, il leur pose simplement la question. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Que c'est vrai que, bon, quand on marche tout seul, on n'a peut-être pas l'habitude de parler tout seul. Quoique moi, ça m'arrive, je marche tout seul et ça m'arrive de parler tout seul. Parce que je commente ce que je vois, ou voilà. Il va se dire, il est pas bien Jean-Michel. Mais bon, je préfère ça écouter de la musique. Et donc, ils discutent, et en plus, la deuxième partie de la phrase, c'est « De quoi discutez-vous ?» Alors, ils ne discutent pas de choses joyeuses parce qu'ils sont tout tristes. Parce qu'ils ont perdu quelque chose. Leur histoire s'est arrêtée là. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Tu parles, c'était le principal représentant, c'était Jésus. Donc, bien sûr qu'il savait ce qui s'était passé. Mais Jésus joue le jeu, hein, si on peut dire ça comme ça. Il leur dit quoi? Quoi? Juste quoi? Et leur répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Un prophète puissant, ils n'ont pas dit le Fils de Dieu, hein. En œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Mais mince! Nous, on avait espéré que ça soit lui qui délivrerait Israël. J'exprime un petit peu la façon du texte. Hein. Le texte, c'est « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Délivrer Israël, il pensait que Jésus, c'était, encore une fois, on l'a abordé la dernière fois, le roi. Mais qu'est-ce que ça peut représenter le roi? C'était pas le roi spirituel, c'était pas le roi des cieux, c'est un roi qui allait combattre Pilate. Pan! Coup de pied Pilate, au revoir les Romains, on chasse les Romains et on retrouve notre liberté. Un roi de guerre. Mais Jésus, c'était pas le roi de guerre. Même s'il est venu pour chambouler les choses. Ils continuent leur narration. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Oh, les garçons! Quand je dis ça, je dis, mais en quoi avez-vous cru? Alors, on croit que Jésus, c'est un grand prophète. On croit que, on croit qu'il est mort. Hein. Et on croit qu'il était roi. Et on a même du mal à croire les femmes qui ont vu. Alors, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Oh, ils ont vraiment l'air d'y croire, hein. Ils ont l'air d'y croire. Pas du tout. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus intervient, parce que je pense qu'il devait se dire, mais réveillez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. C'est ce que j'avais annoncé. C'est ce qui allait se passer. Et là, il leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur et lent à croire et à en comprendre hein, tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc il parle même pas de lui. Il dit, mais même les prophètes, en fait, vous les avez pas crus. Les anciennes écritures, le livre d'Ésaïe que vous avez lu ou que vous avez entendu parler, vous ne l'avez même pas cru. Comment, sans avoir cru les prophètes, vous alliez croire ce qui allait arriver aujourd'hui, le plus grand événement que la terre ait connu? Et il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et là, il leur raconte, depuis Moïse et les prophètes, toute l'histoire. Toutes les écritures qui le concernaient, qui concernaient Jésus. Et là, Jésus, quelques versets plus loin, hein, il va à table avec eux. Et donc Jésus prit du pain, le rompit. Hein, c'est la scène. Hein, il fait une scène avec eux, une sainte scène. Et là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais là, Jésus disparut devant eux. Jésus voulait qu'ils le reconnaissent, qu'il, encore une fois, leur montre que l'histoire est vraie. Mais parfois, nous aussi, combien de fois Dieu doit nous montrer les choses pour que nous croyons qu'il va faire quelque chose pour nous? Est-ce que parfois, on n'a pas tendance à une certaine forme d'incrédulité? Seigneur, est-ce que vraiment tu vas agir? Est-ce que tu peux vraiment agir? Est-ce que tu vas vraiment agir? Oui, je crois, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Les deux disciples qui marchaient donc à table, qui reconnurent donc Jésus, ils se dirent l'un à l'autre, ah, mais tu te rends compte quand même, pendant qu'on discutait là, il y avait quand même quelque chose en nous. Ah, heureusement, il y avait quand même quelque chose. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Ils sentaient cette présence de Jésus quand même en eux, mais ils n'ont pas fait la distinction. Quand Jésus leur parlait, ils sentaient que c'était vrai. Et quand Jésus nous parle des fois, on sent que c'est vrai. On sent que quelque chose se passe, mais on l'empêche de s'exprimer. On l'empêche de monter à l'étage, d'ouvrir notre cœur. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ah ! Et là, ils retrouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Ah, c'est plus le prophète, hein, remarquez bien. C'est le Seigneur. Et il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin, comme ils l'avaient reconnu au moment où il rompit du pain. Et tandis qu'ils parlaient de la sorte, Jésus se représenta devant eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et là, et encore saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ?» Encore une fois, regardez, voyez mes mains, mes pieds, c'est physique, vous pouvez toucher. Tant que je suis encore là, là c'est moi qui ouvre une parenthèse, Jésus leur dit, tant que je suis encore là, vous pouvez toucher, vous pouvez mettre vos doigts, mais après quand je serai parti, il faudrait que vous continuiez à croire. Et en plus, comme Jésus va leur donner la mission d'aller par tout le monde, il va falloir qu'ils prêchent Christ crucifié et ressuscité à des personnes qui n'ont pas connu ni vécu cela. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Est-ce que vous pensez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai? Jésus va même plus loin, il leur dit, donnez-moi à manger. Est-ce qu'un esprit peut manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon et du miel. Jésus en prit et en mangea devant eux. Donc c'était pas un hologramme. Un hologramme, vous savez, il y a plusieurs projecteurs, voilà, là on pourrait projeter quelqu'un, enfin une silhouette, on aurait l'impression qu'elle est réelle, mais c'est un hologramme, c'est une image en trois dimensions, mais ce n'est qu'une image, c'est du virtuel. On pourrait passer au travers, mais on ne peut pas donner à manger à une image. Même si elle ouvre la bouche, on ne peut rien mettre dedans. Et là, Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, le point de départ. Jésus leur dit, vous êtes témoins de ces choses. Si je te dis, tu es témoin de ce que tu viens d'entendre, tu ne pourras pas dire c'est pas vrai. Vous êtes témoin de ce que vous avez entendu. Et voici, dit Jésus, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Tous ses disciples devinrent des témoins de la résurrection. Encore une fois, ils devinrent témoins de la résurrection physique de Jésus. Leur foi prit une ampleur telle qu'elle les transforma en fervents serviteurs et annonciateurs du royaume de Dieu. Car l'humanité entière était concernée par cette nouvelle Pâque. Jésus a dit, on commence par Jérusalem, mais après, tout le monde entier. Jésus se montra aux disciples, et plusieurs fois. Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus rappelle la liberté qu'il a mis en nous. Il nous a fait femmes et hommes libres. Il ne nous a pas fait robots. Nous avons le droit, la liberté, et d'ailleurs Dieu le revendique. Vous êtes libres d'accepter ou de refuser, de m'accepter ou de me rejeter, de croire ou de ne pas croire. Mais Jésus pourra plus venir en disant « touche, mets ta main ». Il y a un épisode dans Jean, au chapitre 21, qui raconte cette histoire quand Jésus se remonte encore à ses disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et je vous laisse le texte à lire. C'est intéressant comme texte de voir comment Jésus, on a l'impression qu'on revient 3 ans en arrière, quand Jésus est allé sur le bord du lac et qu'il a invité des pêcheurs qu'il voyait là-bas, qui étaient tout bredouilles, tout penauds, tout tristes. Enfin, quand on dit penaud, c'est parce que c'était aussi la nourriture qui leur manquait, ils n'avaient pas pêché de poisson. Et Jésus leur dit, allez un petit peu là, jetez le filet. Ils ont ramené du poisson. Et là, Jésus retourne sur les bords du lac, revoit les disciples et rejetaient le filet. Et là, ils ont ramené des gros poissons et Jésus leur refait le barbecue sur la plage. Jésus leur dit, venez manger. Mais aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, leur donna, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Voilà, donc Jean, chapitre 21, versets 1 à 25, je vous invite à le relire, c'est une belle histoire. De voir comment Jésus, j'ai même l'impression, vous voyez, que Jésus, il aimait tellement ses disciples, il n'avait pas envie de les quitter. Il disait, mais tout ce qu'on a vécu ensemble, enfin, c'est mon interprétation, hein, pardonnez-moi, mais je trouve ça tellement émouvant que Jésus, voilà, presque dans la même scène, et puis, il nourrit encore ses disciples avant de les laisser. Un vrai papa. Jésus est retourné près d'un lac, comme il avait fait dans Luc 5, pour chercher ses disciples. Alors, quelles sont les conséquences de la résurrection? C'est pas uniquement ce que l'on vient de lire comme histoire. Les conséquences, il est ressuscité, il s'est montré et il a été enlevé. Il est allé auprès du Père. Jésus, d'abord, il est déclaré fils de Dieu. Romains chapitre 1, verset 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il est assis, désormais, à la droite de Dieu, couronné, il a laissé sa couronne d'épines et il a revêtu sa couronne de roi, le roi des rois. Actes chapitre 2, verset 32-33, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Sa chair ne sait pas décomposée, elle n'est pas retournée à la poussière. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Même si aujourd'hui on va fermer cette page, Christ crucifié, ressuscité, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la deuxième partie de la phrase, elle n'est pas terminée, parce qu'il va y avoir la résurrection des morts. Jésus va rétablir, il reviendra, il établira son trône sur la terre. Pour nous les croyants, la résurrection rend possible notre salut. Romains chapitre 4, verset 25, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Il est notre avocat, notre défenseur. Il est la résurrection et la vie. Il est vraiment ressuscité. Et le dernier verset que je vais vous laisser cet après-midi, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, on parle d'Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Jésus. Et comme tous meurent en Adam, là, mon corps d'Adam, qui va retourner à la poussière, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun selon son rang. Christ comme prémisse, comme le premier, prémisse premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour, de son avènement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et avant de vous laisser, je ne connais pas l'heure et le jour du retour de Christ, mais Dieu le sait. Et c'est ce qui compte, c'est que lui sait à quel moment il viendra nous chercher. Amen.